We must remember that Australia, New Zealand and Canada are all directly by this evil power.
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide. À la fin de l'année 1949, Mao Tse-tung se rend à Moscou pour rencontrer Staline. Fort de sa victoire sur les nationalistes de Chiang Kai-shek, il a proclamé la République populaire de Chine quelques semaines plus tôt. Mao incarne désormais une victoire possible du communisme en Asie. Dans les archives soviétiques, arrivée du train en gare.
Donc là, on voit une aide d'honneur de jeunes soldats soviétiques venus attendre Mao. Là, on voit Molotov arriver à la gare.
Céline Maranger.
Donc Mao a fait route depuis Pékin en train. Et là, le train s'approche, entre en gare. Il descend de son wagon et il est accueilli à ce moment-là par deux hauts représentants soviétiques, par Molotov, le fameux Molotov, mais qui est alors en disgrâce. Sa femme, Palina Jemchujina, a été arrêtée quelques mois auparavant et il vient d'être évincé par Vyshinsky. De même, Bulganine, qui était jusqu'à peu ministre de la Défense, et il n'est plus ministre de la Défense. Donc en fait, la délégation soviétique qui vient accueillir Mao à la gare n'est pas particulièrement prestigieuse. Ce ne sont pas ses alter-ego. Il se rend à Moscou pour faire allégeance d'une certaine manière à Staline, mais aussi pour négocier un accord d'assistance mutuelle avec l'Union soviétique. Il attend beaucoup de ce voyage. On sait, d'après les mémoires de son interprète, qu'il s'était préparé dans son wagon à accueillir les plus hauts représentants soviétiques, qu'il avait disposé des mets et qu'il comptait les inviter à entrer dans le wagon pour les recevoir et échanger. Et en fait, quand il arrive à la gare, Staline est absent. Il est reçu le soir même par Staline, assez brièvement, et puis plus rien jusqu'au 21 décembre. Il ne revoit Staline, donc il arrive le 16 décembre 1949, et il ne revoit Staline que 5 jours plus tard, le 21 décembre, à l'occasion des festivités qui sont organisées en l'honneur du 70e anniversaire de Staline au Bolchoï.
Pourquoi Staline ne rend pas honneur à cet invité, à Mao ?
Je pense que Staline veut marquer sa supériorité. À l'été 1949, Liu Shaoqi, qui est donc un des principaux dirigeants du Parti communiste chinois à l'époque, s'est rendu à Moscou. Et il a demandé à Staline à subordonner son parti au PCUS. Il a également demandé à ce que le PCC, le Parti communiste chinois, intègre le Kominform qui venait d'être créé. Et Staline refuse à la fois toute intégration du PCC dans le Kominform et également toute subordination du PCC au Parti communiste soviétique. En revanche, il l'incite à organiser une union des partis communistes en Asie orientale, en soulignant à quel point la victoire des communistes chinois était importante pour l'avenir de la révolution en Asie. Et en fait, les déclarations de Staline à ce moment-là laissent à penser aux Chinois qu'il accepte un partage des tâches, d'une certaine manière. Et il confie en fait aux communistes chinois la charge d'aider ces communistes asiatiques. Et ces déclarations vont véritablement donner des ailes aux communistes chinois, c'est-à-dire qu'eux vont prendre ça comme une incitation à en faire plus, peut-être pas à fonder une nouvelle union des partis communistes asiatiques, je pense pas que c'est pas du tout à l'ordre du jour à cette époque, mais en tout cas, ils commencent à échafauder une stratégie pour toute l'Asie. Et à cette époque-là, ils accroissent leur aide à la fois aux communistes vietnamiens qui sont en guerre contre les Français. Et puis, bien sûr, ils vont aussi aider les communistes coréens.
Vous nous avez parlé jusque-là de ce qu'attendent les communistes chinois de la part de Staline, de leur relation, de cette révérence vis-à-vis de Staline et de l'Union soviétique. Est-ce qu'on sait comment Staline, de son côté, considère cette révolution chinoise et cette fondation de cette nation communiste en Chine en 1949?
Alors, Staline accorde une extrême importance à la victoire des communistes chinois. Il est convaincu que cette victoire va en amener d'autres et que c'est peut-être le prélude à la victoire de la révolution dans le monde entier. Enfin, je veux dire, c'est encore des choses auxquelles il pense et il croit à cette époque. Mais je crois que Staline a voulu marquer sa supériorité en le faisant attendre vraiment, d'abord en ne le recevant pas à la gare, personnellement, et puis ensuite, il a laissé Mao plusieurs semaines attendre à la datcha en banlieue de Moscou, sous bonne garde, d'après ce qu'on sait, et Mao, évidemment, a assez mal pris la chose. Et les négociations n'ont pas été menées directement par Mao et Staline, mais par personne interposée d'une certaine manière. Il a fallu attendre que Chou Enlai, le ministre des Affaires étrangères, arrive lui aussi à Moscou pour que ces négociations débutent véritablement. Cette rencontre est primordiale pour l'avenir du communisme en Asie, c'est-à-dire que à cette occasion, il va être décidé d'apporter une aide substantielle à la fois chinoise et soviétique, aux communistes vietnamiens qui, sous couvert du Viet Minh, font la guerre aux Français pour conserver l'indépendance du Vietnam, qui a été proclamée le 2 septembre 1945 par Ho Chi Minh à Hanoï. Et par ailleurs, elle va avoir une incidence très importante sur la Corée. Les communistes coréens, forts de l'aide soviétique et chinoise, vont décider de lancer des opérations en juin. Ils déclarent la guerre en juin 1950 et ils le font avec l'approbation de Staline.